Chapitre 10. Il en avait été longtemps, pour Belloc, de la religion comme de la pharmacie et de la médecine, il n'avait pas plus cru à l'une qu'à l'autre. Mais c'était à l'état de bonne santé qu'il avait vécu dans cette incrédulité, alors qu'il n'avait besoin ni des unes ni des autres, et qu'il les défiait en se moquant d'elles. Malheureusement, ce n'était plus son cas. Il ne pouvait plus défier rien ni personne, et il avait autant besoin de la médecine et de la pharmacie que de la religion. En médecine, il ne savait que ce que l'expérience personnelle lui avait appris par des faits qui s'étaient passés sous ses yeux. Un de ses amis, qui avait eu une attaque d'apoplexie et qui ne s'était pas soigné, était mort à la seconde, au bout de 3 mois. Celui-ci, qui avait suivi le même système, était mort en 6 mois. Celui-là, au contraire, qui avait pris toutes les précautions ordonnées par les médecins, avait vécu 10 ans après sa première attaque. 10 années de vie assurée, c'était tout ce qu'il demandait, présentement, le bail qu'il était prêt à signer, dut-il en payer le loyer par quelques sacrifices. C'est lâche d'avoir des faiblesses quand on est fort, mais quand la maladie remplace la force, il faut savoir se résigner. En religion, il raisonnait de même et il était tout disposé à se laisser guider par les exemples dont il avait été témoin. Des gens qui le valaient bien pour l'intelligence et le caractère, qui avaient mené une joyeuse existence, n'avaient pas hésité à écouter les prêtres quand l'âge et la maladie étaient venus. Pourquoi ne ferait-il pas comme eux? Il n'était pas de ceux qui ouvrent les fenêtres quand ils tonnent, au contraire, il les fermait parce qu'enfin, on ne peut pas savoir. La peur qu'il avait éprouvée en sentant sa tête se troubler au moment où il voulait travailler avec ses commis avait plus fait pour lui inspirer la foi dans la médecine et la religion que les exhortations les plus éloquentes et les plus persuasives. Évidemment, il était atteint et ce serait folie à lui de ne pas prendre ses précautions d'un côté comme de l'autre. Les précautions n'ont jamais fait mourir personne et elles ont sauvé bien des gens. L'avertissement du doyen, le prenant dans ses dispositions, devait produire sur lui de l'effet, et ce fut ce qui arriva. Au lieu de hausser les épaules, comme il l'aurait fait 15 jours auparavant, et de rire de ses paroles, il les accueillit sérieusement et les pesa. Il était incontestable que s'il avait toujours quelqu'un de dévoué pour le soigner et l'aider, en écartant de lui le danger aussi bien que la fatigue, cela pouvait lui faire gagner les 10 ans qu'il espérait. Seulement, ce quelqu'un n'était pas facile à trouver. Un commis, il n'y fallait pas songer. L'exemple de Victor, tâchant déjà de s'établir en maître dans la maison, était là pour l'avertir. Un commis, quel qu'il fût, Victor ou un autre, voudrait se faire valoir, se pousser, se rendre indispensable, sans compter que sûrement, il chercherait à exploiter à son profit les secrets qu'on devrait lui confier ou qu'il devinerait. Une femme, jamais il ne se livrerait point et mains liées à une femme qu'il exploiterait et le tyranniserait. Il les connaissait, les femmes, des Célani, des Madame Voisard. Un enfant, c'était là ce que le doyen lui avait suggéré. Mais n'était-il pas vraiment naïf, ce pauvre curé, de s'imaginer qu'il allait maintenant appeler près de lui ses enfants naturels pour se faire soigner par eux? Où diable les retrouverait-il, ces enfants naturels? Où les chercherait-il? Et quand il les retrouverait, où les logerait-il? Sa maison n'était pas une caserne. D'ailleurs, ce serait un singulier moyen d'assurer sa tranquillité. Combien de ses enfants, faits à des filles de rien et dont il ne s'était jamais occupé, étaient forcément devenus des vauriens et des brigands de la pire espèce? De ses enfants, il n'en voyait qu'un qui répondit aux exigences de la situation. Ce petit, qu'il avait frappé par son intelligence lorsqu'il avait visité l'école de Berneval, le fils de Marichette et le sien, il pouvait le croire. Précoce cet enfant, instruit, capable d'écrire correctement une lettre, de faire un calcul, doux, timide, encore assez jeune pour n'avoir ni volonté, ni rouerie, élevé par une mère qu'il avait surveillée de près. S'il le prenait avec lui, celui-là, la médecine, comme la religion, serait satisfaite. Il est vrai que la mère, telle qu'il la connaissait, ne consentirait jamais à le lui donner, pas plus qu'à le lui vendre. Mais, heureusement, il avait un moyen de l'avoir quand même, et malgré elle, c'était de le reconnaître légalement. S'il ne le tenait pas de la mère, il le tiendrait de la loi, ce qui valait mieux et présentait plus de sécurité. Reconnu, il serait à lui, et alors même que la mère serait assez niaise pour vouloir le garder, on ne trouverait pas de juge assez peu intelligent pour hésiter entre une mère qui n'avait rien à donner à son fils et un père qui offrait une fortune considérable à ce fils. Avant tout, on devait faire passer l'intérêt de l'enfant, et il n'était pas contestable que cet intérêt le mettrait aux mains du père. L'enfant lui-même le comprendrait. Et si, par impossible, on essayait d'agir sur lui pour le ramener à la mère, il répondrait qu'il restait avec son père, qui, par la reconnaissance légale, lui avait assuré la moitié de sa fortune, et qui, par testament, lui donnerait l'autre moitié. Ce serait à lui expliquer, et une fois qu'il se serait rendu compte de la situation, il serait solidement tenu par l'amorce du testament. Qu'importait que 10 ans auparavant, il eût contesté en justice la filiation de cet enfant. Alors, il était abusé par de faux rapports. Maintenant, mieux éclairé, il avouait son erreur, et ce qui était plus digne encore, il la réparait. Puisqu'il ne pouvait pas emporter sa fortune avec lui dans l'autre monde et qu'il lui fallait un héritier, mieux valait celui-là qu'un autre. Au moins, il lui serait bon à quelque chose, ce qui est rare chez un héritier. Belloc pesa sa résolution pendant 2 jours. Puis, un matin, après déjeuner, faisant atteler une voiture fermée de peur du froid, lui qui n'avait jamais eu souci du froid et du chaud, et prenant un de ses commis avec lui, il se fit conduire à Berneval. Cette fois, en le voyant entrer, M. Ledru, au lieu de rester dans sa chaise, se précipita au-devant de M. l'inspecteur, extrêmement flatté de recevoir une seconde visite, suivant la première d'aussi près, et se disant que sans doute sa recommandation en faveur de Pierre Cabernet n'avait pas été aussi maladroite que la mère et Mlle Julienne l'avaient cru. La demande que lui adressa M. l'inspecteur d'entretenir Pierre Cabernet au moment en particulier le confirma dans cette idée, et ce fut glorieusement qu'il conduisit M. l'inspecteur et Pierre dans une des salles de la mairie où il les laissa seuls. Pierre était fort ému, mais en même temps, il était aussi surpris de voir son méchant cousin, qui, la première fois, lui était apparu fort et alerte, marcher avec tant de lenteur et s'exprimer si difficilement. « Tu sais qui je suis ?» demanda Belloc. « Oui, vous êtes le cousin de maman. On ne t'a jamais dit que j'étais plus que ton cousin ?» Pierre le regarda stupéfait, cherchant à comprendre ces paroles étranges pour lui. « Non, dit-il. Sais-tu qu'il y a eu autrefois des difficultés entre ta mère et moi ?»«
Oui. »«
Quelles difficultés ?»
« Je ne sais plus, on ne parle jamais de vous à la maison. » »«
Eh bien, ces difficultés se sont produites à propos de ta naissance et ce sont elles qui m'ont empêché de te reconnaître plus tôt pour mon fils. » Pierre resta un moment pétrifié.
« Je serai votre fils, » murmura-t-il enfin.
« Oui, et je suis décidé à te donner mon nom et ma fortune. Ne serais-tu pas heureux d'être riche, c'est-à-dire de faire ce que tu voudrais, d'aller où tu voudrais, d'avoir ce que tu voudrais, des chevaux, des voitures, des propriétés, d'être le premier dans le pays, de n'avoir qu'à parler pour te faire obéir ?» Pierre réfléchit longuement, et à le regarder, il était facile de deviner qu'il suivait sa pensée intérieure, bien plus qu'il n'écoutait.
« Si j'étais votre fils, est-ce que je serais toujours bâtard ?» dit-il.
« Non, tu sais bien qu'on n'est pas bâtard quand on a un père. »«
Alors, je ne serai plus bâtard ?» répéta-t-il d'un air fier.
« Non, bien sûr, tu serais estimé, honoré, envié comme un garçon riche. »«
Mais puisque je suis votre fils, pourquoi n'avez-vous pas été mon père plus tôt ?»
Belloc eut un moment d'hésitation. La logique de cet enfant était embarrassante. « C'est précisément à cause de ces difficultés entre ta mère et moi, » dit-il.
« Ah !
Et puis, je ne te connaissais pas. Je ne savais pas que tu étais un garçon intelligent, un bon garçon. » Pierre réfléchissait toujours.
« Mais si je suis votre fils, » dit-il, obéissant à ses réflexions, « je serai toujours celui de maman. »
Belloc eut encore un mouvement d'embarras.
C'était là une question qui compliquait singulièrement la situation et qui dérangeait son plan. On ne cesse jamais d'être le fils de sa mère. Ah, bien alors! Maintenant que nous nous sommes entendus, rentre en classe et envoie-moi M. Ledru. Nous nous reverrons bientôt. M. Ledru arriva au plus vite. Ce n'est pas à l'instituteur que j'ai affaire maintenant, dit Belloc. C'est au secrétaire de la mairie pour le prier de dresser un acte par lequel je reconnais pour mon fils naturel Pierre Cabernet. Mon commis et mon cocher serviront de témoins. M. Ledru se demanda s'il rêvait. Ah, monsieur l'inspecteur, s'écria-t-il, combien je serais fier si, en appelant votre attention sur cet enfant, j'avais pu, pour une faible part, contribuer à... Justement, vous y avez contribué, répondit Belloc, lui coupant la parole. L'acte dressé en présence du maire qu'on avait envoyé chercher, Belloc remonta en voiture sans revoir Pierre. La question de l'enfant relativement à sa mère ne permettait pas qu'il l'emmenât, comme il en avait eu tout d'abord l'idée. Il chargerait le doyen de cette négociation et s'épargnerait ainsi les criailleries de la mère. En passant par Criquefleur, il s'arrêta un moment à sa succursale pour prouver à Victor qu'il était encore bien vivant et qu'il fallait compter avec lui. Une petite algarade ferait du bien à ce garçon qui n'était que trop porté à s'émanciper.